Porque el corazón no quiere. Hérité du politique, enfant de militantes latino-américaines en exil. Le titre de cette série est un emprunt à une chanson, une ritournelle qui nous accompagne depuis quelques années et qui marque un peu le début de ce travail avec Américo. La chanson dit « Porque el corazón no quiere entonar más retiradas ». Le cœur ne veut plus entonner de chants d'adieu. Elle dit même « Battons les tambours de l'espoir, muchachos, que ce battement impulse notre sang pour que celui-ci n'oublie jamais sa direction, parce que le cœur ne veut plus entonner de chants d'adieu ». C'est un chant d'espoir et de persévérance. Plus d'adieu, plus de mort, plus de départ. Et une direction, un sens à prendre, qui coulerait dans nos veines. Je suis née à Lyon, durant l'exil de mes parents qui débarquaient d'Argentine. Presque 40 ans plus tard, ce genre de chanson prend aux tripes, serre la gorge, impulse un mouvement, fait frémir la mémoire. Cette série documentaire fait se croiser, se recouper, les témoignages de 6 personnes, aux histoires et aux vies assez différentes. Mais qui ont en commun d'être nés en pleine dictature militaire, en Amérique latine, ou nés déjà en exil entre les années 70 et 80. Leurs parents prenaient part aux luttes politiques et sociales du moment, impliqués dans des organisations bien différentes, mais qui avaient un ennemi commun de taille. Des juntes militaires, décidées à mettre en place une nouvelle phase du capitalisme, le modèle néolibéral, à coups de mort et de terreur appliqués par l'État. À l'époque, militer c'était se mettre en danger, et nos parents l'ont fait. Et ils et elles ont fini par partir, emmenant leurs enfants au loin. L'air qu'ils respiraient était rouge ou noir. Elles ont pris ou pas les armes, étaient plus ou moins clandestins. Elles étaient convaincues que le grand soir approchait, ou pas. Nos vieux sont partis, en sachant qu'à la maison, pendant ce temps, les camarades tombaient. Incarcération, torture, assassinat, disparition. Nous sommes enfants de ce départ. Et c'est ce bout d'histoire qu'on va tenter de raconter.
Je m'appelle Emiliano, je suis né en Uruguay en 79. Un an après, à peu près, que mon père soit sorti de prison, un militant Tupamaros. J'ai arrivé en France, j'avais un an.
Je m'appelle Paulina Caro Astorga. Je suis née au Chili en 1974. J'ai été faite par mes parents avant le coup d'État et je suis née après le coup d'État.
Donc, je m'appelle Américo, je suis née en 1974 à Buenos Aires, Argentine, de parents uruguayens.
Je m'appelle Elsa, Elsalia Torres Goitia. Je suis née dans la première moitié des années 80 d'un père bolivien qui est passé par le Chili, réfugié politique.
Moi j'utilisais le prénom Demeterio. Je suis né au Mexique. Mon père et ma mère sont d'origine guatémaltèque.
Je m'appelle José, je suis de parents chiliens, né au Chili, avec deux exils, c'est-à-dire le coup d'État au Chili, exil en Argentine, coup d'État en Argentine, exil en France. Voilà, et puis depuis 40 ans, j'ai grandi en France, et avec justement voilà, toute cette histoire, tout ce passé.
Ici ou là-bas, et arrivée très jeune. Ici, les premières AG, les premiers squats, les premières orgas. Ici, se trouver une place dans le monde, se faire notre propre idée de la politique, du politique, avec ce petit bagage dans le dos. Après cette vie construite ici, qu'est-ce qu'on charrie ? Qu'est-ce qu'on a fait des fantômes, des espoirs, de la colère et des croyances de nos vieux ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Comment on le raconte ? Comment on le relit ? C'est quoi ces lunettes politiques qu'on nous a posées sur le nez pour regarder le monde? Mon vieux a fait quelques années de partie, manifs et diffusion de tracts, réunions secrètes et autres petits méfaits. Il a rencontré ma mère en brûlant des papiers compromettants dans les patios de la fac. Pas grand-chose en fait. Pas tellement plus, ni moins que ce que je fais moi. Sauf que lui, il a perdu des amis et il a dû quitter son pays pour ça. Moi, j'ai longtemps cherché ma place ici. Ici et là-bas. Je comprends le monde à travers ce double prisme. J'ai brassé cette histoire dans tous les sens, comme un problème à régler chez la psy, dans mon travail d'anthropologue comme un objet scientifique, et finalement, dans presque tous les pans de ma vie, mes plus grandes complices portent ce même tatouage. Ici se croisent donc des voies, choisies de manière complètement affinitaire, par connaissance ou parce que j'ai été touchée par les mots d'un spectacle de Paolina, ceux d'un texte publié par Emiliano. J'ai voulu aller chercher ce qu'ont à dire d'autres fils et filles de cette histoire. Et je m'en suis aperçue en route, les occasions de parler de ça ne sont pas si nombreuses. Notre histoire est cachée dans les plis de celle de nos parents, mais on la porte pourtant, comme un fardeau ou comme un cadeau parfois, une brèche en bas à gauche dans laquelle on se croise. Esperando que llegues, mijita, aquí va un pedacito de la historia de tu familia. Para las hijas, las nietas y todos aquellos que no pudieron matar, con todos los desaparecidos presente, ahora y siempre. Volet 1, partir. Ce premier volet traite de l'histoire de nos vieux, à l'époque, d'où ils viennent et ce qu'on sait de leur parcours politique, de leur rapport à la lutte. Mettre nos mots sur leurs idées et leurs pratiques, il nous faut aussi un peu raconter la grande histoire pour donner des repères.
De la longue lutte de Tupac Amaru, dernier Inca quechua contre les conquistadors espagnols, jusqu'à l'assassinat récent de Marielle Franco, militante féministe afrodescendante au Brésil, l'histoire de l'Amérique latine est faite de sang, de larmes et de résistance. Ce qui nous occupe ici constitue l'un de ces épisodes de résistance et de répression. Depuis la fin de la guerre 39-45, un vent de liberté décoloniale souffle sur le monde. Les pays latino-américains, formellement indépendants depuis le 19e, aspirent à plus de justice sociale et à plus d'indépendance. Cela passe notamment par d'importantes transformations de l'organisation économique, marquées par une exploitation sans frein et des inégalités profondes. Que ce soit porté par des groupes révolutionnaires visant des sociétés communistes, ou par des fractions de réformistes de la bourgeoisie, du clergé ou même de l'armée, cette aspiration traverse le continent. Au Guatemala, par exemple, en 1945, le président Juan José Arévalo instaure une nouvelle ère d'investissements sociaux, ainsi qu'un code du travail et le droit de grève. En juin 1954, son successeur, Jacobo Arbenz Guzmán, tente une réforme agraire qui nuit aux intérêts de l'United Fruit Company, entreprise états-unienne. Ce pays va dès lors fomenter un coup d'État par l'intermédiaire de la CIA et installer un gouvernement fantoche. L'expression « République bananière » vient de là. Dans les années 60, une guérilla s'opposera à cette dictature et ce pays connaîtra une guerre civile qui durera jusqu'en 1994, le laissant profondément meurtri. Cuba est un autre exemple qui illustre la mainmise des États-Unis sur la zone Caraïbe depuis la fin du 19e siècle. Ce pays est le lupanar de la bourgeoisie états-unienne, laissé en gérance au dictateur Batista. Une guérilla s'opposera à celui-ci dès 1953, menée par Fidel Castro. Elle est victorieuse en 1959, provoquant une véritable déflagration dans l'ensemble du continent. La révolution est possible, et la voie des armes est une option prise, de manière diverse, par de multiples groupes et individus. Les États-Unis, mais aussi la France, vont former les armées du continent aux méthodes contre-insurrectionnelles. Ces méthodes ont été développées notamment dans les guerres coloniales de la France, en Indochine et en Algérie. Torture systématique, terreur, propagande, répression clandestine en sont les maîtres mots. Une sorte de génocide, visant les dénommés subversifs, et aussi les Indiens et les pauvres, a lieu sur tout le continent. Les dictatures se multiplient. 1954-1994, dictature au Guatemala. 1954-1992, dictature au Paraguay. 1964-1985, dictature au Brésil. 1964-1982, dictature en Bolivie. 1973-1990, dictature au Chili. 1973-1985, dictature en Uruguay. 1976-1983, dictature en Argentine. Nous pourrions en ajouter encore, mais nous nous perdrions dans les dates. Il faut insister sur l'ampleur de la répression et la collaboration entre les différentes dictatures pour ce faire. Ce sont des millions de morts, de disparus, de prisonniers qui marquent profondément le continent d'une terreur durable. Celles et ceux qui le pourront prendront le chemin de l'exil, mais souvent, les plus démunis n'auront pas d'autre option que de subir.
Je vais essayer de ne pas être injuste en présentant mes parents. Celui qui militait, c'était mon père. Mon père a commencé à militer très jeune dans un parti, un mouvement qui s'appelait la gauche chrétienne. Au début des années 60, il a commencé à militer très jeune. Il est d'extraction très basse. Hein. Mon père a perdu son père quand il avait 5 ans. Ma grand-mère, elle, qui était vraiment de très basse extraction, donc voilà, le quartier trop populaire, mon père a commencé à bosser très jeune, et il a commencé à militer dans la gauche chrétienne, donc, qui, la gauche chrétienne, après, dans les années 60, avec toute l'influence guévariste, guerre du Vietnam, s'est marxisée, premièrement, et puis qui est devenue de plus en plus à gauche, qui s'est séparée de la démocratie chrétienne à laquelle elle était liée, et qui est devenu le Mapu. Donc mon père a milité dans le Mapu. C'est sa militance chilienne que je lui connais.
Et du coup, juste, il a quel âge en 73?
Mon père, il a en 73, il a 24 ans.
D'accord.
En septembre 73, et le coup d'État, c'est le 11, il est du 19, donc voilà, il va avoir 24 ans.
Et ta mère?
Et ma mère, elle a 26 ans.
Alors, mon père était, mon père et ma mère d'ailleurs, communiste, Chili. Ma mère était moins engagée que mon père, et donc elle a, dans un schéma assez traditionnaliste, quand elle s'est retrouvée maman, elle est puis dans un contexte de dictature, donc elle est plutôt rentrée à la maison. Mon père a continué, lui, dans le cadre d'une action syndicaliste. Puisqu'il était mineur dans les mines de cuivre et notamment dans la plus grande entreprise au Chili qui s'appelle Codelco, toujours. Et donc, lui, il a fait partie de cette lutte qui a existé au début des années 80 au Chili quand Pinochet a voulu reprivatiser le cuivre. Et donc, les mineurs se sont mobilisés pour faire en sorte que ça n'arrive pas et ça n'a pas eu lieu, d'ailleurs. Il n'a pas pu reprivatiser à ce moment-là, en tous les cas, le cuivre, même si depuis, évidemment, mesure après mesure, la privatisation a finalement gagné du terrain. Ma grand-mère maternelle, elle, était communiste aussi. Pareil, engagée pendant une période. Après, elle s'est retirée. Le coup d'État a quand même calmé pas mal de gens, et ma grand-mère, à ce moment-là, elle n'est pas entrée en résistance, quoi. Elle s'est plutôt occupée de sa famille et de moi, notamment.
Moi, mon père, il est né en Bolivie, et il a adhéré au Parti communiste bolivien en 66. Et il a quitté, donc militant actif la Bolivie à partir de 64, c'est une junte militaire au pouvoir. Donc après en 71, il y a eu le général Banzer là, qui a fait son coup d'État. Et c'est à ce moment-là qu'il quitte la Bolivie pour aller au Chili. Parce qu'il milite à la fac, au MAU, je crois, c'est mouvement armé universitaire. Et c'est un curé, je le dis parce que je trouve ça mignon pour le dire, c'est un curé qui le fait rentrer au PC bolivien en 66. Et c'est aussi un curé qui lui apprend avec ses copains à faire des bombes aussi, notamment sa première, c'est avec un curé qui est ce curé Padre Frias del Sagrado Corazón. Et quand il en parle, c'est son père, quoi, spirituel. Après le coup d'État, ses frères partent aussi, quittent le pays pour demander l'asile politique au Chili. Et mon père, pareil, on l'arrête, il est arrêté, puis il est monté dans un avion jusqu'à Arica et après à Santiago. Et il arrive à Santiago, il se réinscrit en deuxième année de médecine, parce qu'il était à la fac de médecine à Sucre, en Bolivie, il n'était pas à La Paz. Et donc il va rejoindre là-bas le Chili, et puis ben, rentrer aussi au Parti communiste chilien, parce qu'il a toujours sa carte de membre du PC bolivien. Quoi. Benzer, son coup d'État, c'est en août, je crois que c'est en décembre 71, mon père arrive à Santiago, puis voilà, ça fait un an à peine qu'Allende est là, l'Union Populaire et tout, et du coup c'est le rêve, quoi. Et puis là, c'est de là où ils vont vivre quand même 2-3 années de bonheur un peu, avec des expériences militantes, et puis... un rêve politique vécu, quoi. Donc c'était quand il en parle, c'est très fort. Mes oncles, mes tantes aussi, ils en parlent comme d'une période un peu incroyable où c'était dur, hein, parce que voilà, l'inflation organisée par la CIA, la grève des transporteurs, tout ça pour bien pourrir le gouvernement Allende.
Mon père, lui, il s'est engagé, je crois, vers 15 ans. En tout cas, il a commencé plus ou moins à frayer avec des trucs politiques à 15 ans. Et il a été arrêté, il avait 19 ans, donc il était dans le dernier cercle des militants Tupamaros, c'est-à-dire les plus jeunes, en fait, les prisonniers. Il a fait 6 ans de prison. Ensuite, il est sorti. Ils se sont enfuis de l'Uruguay avec ma mère. Ma mère, il l'a connue parce que c'était une amie de sa sœur et qu'ils étaient à peu près du même quartier. Et elle lui a commencé à lui écrire genre une petite lettre comme ça pour soutenir. Et puis ils ont entretenu une relation, ils sont tombés amoureux, après ils sont mis ensemble. Donc ma mère, elle est devenue militante ensuite au contact de mon père. Et quand ils sont arrivés en France, du coup, ils étaient réfugiés politiques et ils ont continué à militer dans une des branches des Tupamaros. Il y a eu des scissions, des désaccords, donc ça a donné plusieurs groupes qui s'appelaient le 26 de Marzo. Et du coup, avec d'autres familles uruguayennes à Paris, ils ont continué à militer, et ils ont ouvert des restaurants pour faire de l'argent. Il y avait la plus grosse partie de l'organisation qui était en Suède. Et donc ils ont milité jusqu'en 96 dans cette organisation qu'ils ont quittée en 96 après un voyage en Uruguay et une rupture politique.
Ma mère, elle a milité d'abord dans des organisations chrétiennes, notamment de bienfaisance, on va dire, dans son village, elle est de l'intérieur de l'Uruguay, d'une petite bourgeoisie commerçante, constructeur, entrepreneur, on va dire. Après, elle vient à Montevideo, la capitale, pour étudier, pour devenir professeur. En 58, il y a des luttes très 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 fortes. C'est une lutte très dure avec des gens dans la rue tout le temps, et c'est pour ça que le gouvernement cède. Il cède vraiment parce qu'il est même incapable de faire les élections à ce moment-là. Donc voilà. Donc ça, c'est la militance, le point de départ pour mon père et ma mère. Et c'est 58. Et ma mère, elle va. Je ne sais pas par quelle voie se retrouver à la Fédération anarchiste uruguayenne, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment anarchistes. Mon père, lui, n'est pas vraiment anarchiste. Il a commencé, la première organisation qu'il intègre, c'est une organisation maoïste. Mon père me le dit, c'est assez clair, je ne sais pas pour ma mère, qu'il prend l'option armée. Une pratique de la lutte armée, entre guillemets, qui n'est pas la prise d'assaut du central téléphonique, où il n'y a pas une prise d'assaut de l'État, mais il y a un appui aux grèves.
Ma mère, elle a commencé à militer quand elle était en fac de psycho. Pendant les années 70, il y a eu des assassinats d'étudiants qui ont fait que ça a mis un peu la rage parmi les mouvements. Il y avait donc une reprise des mouvements armés. C'était la troisième reprise de mouvements armés au Guatemala. Il y en a eu une dans les années 60, une dans les années 50, et une autre dans les années 70. Et, dans celle-là, ma mère ensuite a rejoint un groupe qui s'appelle Armée Guerrillero des Pauvres, EGP. Elle a toujours été enseignante et sa tâche était de faire de la communication. À cette époque-là, distribuer des tracts dans la rue, c'était plus une mission dans laquelle tu pouvais facilement mourir, parce qu'il y avait déjà de la répression ciblée. Elle a commencé à faire ça, et ensuite elle s'est mise à circuler avec les groupes de guerrilleros armés qui allaient dans la forêt. Faisait la guerre là et elle se ramenait dans les communautés rurales pour faire de la communication et de l'apprentissage sur ce que serait un état socialiste une fois que la guerre serait finie, une fois que la révolution serait gagnée. Mon père, il est exilé, il n'est jamais rentré de l'exil. Il n'a pas fait d'études, il a fait la primaire, je crois. Et il a travaillé depuis son enfance pour nourrir la famille de sa famille, donc ses sœurs et sa mère. Dans le quartier, il y avait l'église, avec un prêtre qui s'appelait Carlos, planquait des armes dans l'église et qui faisait construire des uniformes et des tentes pour ce mouvement de guerrières EGP. Sa première action, c'était de, qui est une action assez connue, c'était de bloquer l'ambassade. Une ambassade de Suisse, au Guatemala, l'a bloqué et séquestré l'ambassadeur. C'est la première fois où il a tué les gardes-corps de l'ambassadeur. Et après ça, il a continué à être dans le mouvement de guérilla et ensuite il est parti au Cuba, se faire entraîner militairement avec un frère Alif, un frère d'âme. Un très bon ami. Ensuite, il est revenu, il a pris 115 personnes à son commandement et il a été pendant quelques années dans la montagne.
Si tu avais une chanson à choisir pour aller avec cet entretien, ce serait quoi?
Je pense de suite à Victor Jara, forcément, parce que bon, quand j'étais au Chili, on avait des cassettes à la maison, des cassettes pirates de Victor Jara, et on avait un poste. Et on passait avec mon frère une autre journée à déconner avec ce poste, à s'enregistrer, à étudier de la musique. Et mon père nous avait dit, attention, ça, faut pas que tu dises à l'école que tu connais les chansons de Victor Jara, que tu les chantes, faut pas le dire. Il m'avait expliqué un peu pourquoi, en étant un peu soft. Et moi, du coup, j'ai pas du tout compris, quoi. J'ai pas compris qu'on est tué, que ce soit interdit de chanter ces belles chansons, quoi. Moi, je comprenais pas. Donc, j'ai grandi quand même avec ces chansons et j'ai compris, évidemment, par la suite, le drame que c'est. Et donc, ça serait Victor Jara, forcément, et il y en a tellement de Victor Jara que... Mais celle que j'aime beaucoup, c'est Recuerda Amanda, parce que ça parle d'une histoire d'amour oubliée qui se retrouve...
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Mon père, il commence à partir d'Uruguay en 72, fin 72, par peur d'être arrêté. Il a été arrêté plusieurs fois, ma mère aussi, par la police. En 72, en fait, l'armée rentre en jeu et la torture devient systématique. Et elle devient, on va dire, parce qu'il y avait déjà de la torture, il y avait déjà de la torture dans les commissariats, parce qu'on torturait souvent les voleurs, etc. Mais c'était, on va dire, des mauvais traitements. Et il y avait des mauvais traitements sur les prisonniers politiques, on les laissait à poil toute la nuit, on leur jetait de l'eau, on les insultait, on les menaçait de les violer, surtout les femmes. Voilà, bon, il y avait des trucs comme ça, mais c'était pas systématique et tu savais jamais trop ce qui allait t'arriver. Puis des fois, tu passais un sale quart d'heure, mais c'est tout, entre guillemets. Et après, donc, systématisation de la torture, c'est la GIGN, etc. Donc en 72, il sort, mais il n'est pas recherché. Mais il a peur et il s'en va. Et il va au Chili, là où il espère voir autre chose et puis participer un petit peu à la lutte là-bas. Ma mère reste et elle fait partie. Elle continue à militer ici. Et elle est dans la Resistencia Obrera Estudiantil, résistance ouvrière étudiante, qui est montée par plusieurs organisations combatives. Et elle participe à un journal. Et en 73, disons qu'il y a dissolution des chambres, le coup d'État prend forme de manière presque institutionnelle, on va dire. Et là, elle a déjà été arrêtée une fois, elle a fait un peu de clandestinité, et là, elle sort. Début 74, elle est en Argentine, et mon père arrive du Chili par l'ambassade d'Argentine. Il se réfugie d'abord dans l'ambassade d'Argentine, et ensuite il arrive en Argentine. Et ils restent un peu, ils veulent rester au début, et ils s'en vont. Et ils sortent légalement, en avion, quoi.
Ladies and gentlemen, we are about to land. Please put on your cigarette. Stand at the back of your seat and put your table with you.
Après le coup d'État, en septembre 73, il sera arrêté, avec, je sais plus de 20 000 autres, hein, à l'époque, je sais plus. Et puis il va faire 3 mois au stade, enfermé, le stade de Santiago, le stade de foot national transformé en prison. Il y avait tellement d'arrêtés qu'il n'y avait plus assez de prison, de toute façon. Ça ne dure que 3 mois, mais ils vont être intenses aussi d'interrogatoires, de tortures, des exécutions de ses camarades et tout. Et après, il est envoyé à Paris, sauvé par la Croix-Rouge, protégé par la Convention de Genève. Ils sont peut-être 15 000 à être accueillis en France. Alors peut-être pas en 73, mais surtout celui qui arrive en France le 14 février 74 à Paris, protégé par la Convention de Genève. Et après à Poitiers, on les envoie à Poitiers depuis Paris, parce que Poitiers s'engage à accueillir beaucoup de réfugiés. Les univers, les gens de la fac là, à Poitiers, là, ils sont assez bien organisés, les étudiants. Et puis il y a le Parti communiste et la LCR, la JCR à l'époque, les communistes révolutionnaires qui sont actifs. Et je crois que ma mère, elle est soit à l'LCR, soit au PC, je ne sais plus. Enfin, ma mère est militante. Et voilà, mon père arrive à Poitiers et c'est là qu'ils vont se rencontrer et puis qu'ils vont s'installer dans la région, quoi.
Et il a connu donc la guerre, les disparitions, tout ça. Et elle a exilé. Il a exilé en Nicaragua d'abord et ensuite au Mexique. Et quand elle était au Mexique, elle était encore organisée dans les mêmes. Il y avait déjà eu en 82, donc au Guatemala, il y avait un génocide. Et après ça, quand elle était au Mexique, elle était encore organisée. Elle participait dans la fuite ou l'exil, les mouvements d'exil des personnes pour leur trouver des papiers et pour continuer des opérations dans la capitale du Mexique. Et en 1983, elle a démissionné du mouvement guerrier. Depuis, elle a travaillé dans la planification familiale. Et après que les accords de paix soit signée au Guatemala, elle est revenue travailler dans une commission d'État de droits de l'homme dans laquelle elle faisait de l'éducation pour adultes et adolescents sur quels sont leurs droits fondamentaux. Lui, il a connu le génocide. Enfin, il était là quand c'est arrivé, les bombardements. Et il s'est exilé pareil. Il a connu le traumatisme post-stress de guerre. Donc, il était avec des crises d'angoisse, qui avait des hélicos ou quoi. Quand il est arrivé au Mexique, il était encore actif. Il transportait des explosifs et des armes dans la capitale du Mexique. Mais il a décidé, pareil en 83, comme mon frère aîné, un peu à sa naissance, en fait. Lui, il dit que c'est sa naissance qui a fait aussi qu'il a posé les armes. Il a vendu ses armes pour payer de quoi vivre. Parce qu'une fois que tu quittes l'armée dans un pays qui n'est pas le tien, mais pour travailler, c'est pas très simple. Donc, au tout début, il a vendu ses armes pour subsister. Et après, en 83, il a quitté la guérilla. Je ne sais pas très sûr si c'est 83 ou 85. Et depuis, il a arrêté. Il a travaillé en tant que garagiste mécanicien jusqu'aux années 2000. Et lui, il s'est arrêté sec.
Il a arrêté la politique.
Oui. Ouais, ouais. Il a arrêté ça.
Mon père, juste après les grandes grèves qu'il y a eu en 80-81, il a été prié de partir. En fait, il était inscrit dans des listes noires à ce moment-là qui l'empêchaient de pouvoir trouver du travail ailleurs. En fait, personne ne pouvait l'embaucher. Et donc, il a décidé à ce moment-là de prendre la route de l'exil, ce qui n'avait pas été forcément le cas avant, puisqu'avant, il était dans la lutte, dans la résistance, mais il n'y avait pas de projet d'exil, quoi. C'est à ce moment-là que ça s'est présenté, puisque nous ne pouvons plus travailler, ne pouvons plus subvenir aux besoins de la famille. Les premières vagues d'exil, ce sont surtout des gens plutôt des classes bourgeoises, enfin intellectuelles, quoi. Ceux qui étaient plutôt de la condition d'ouvriers, paysans, l'exil n'a pas pu se faire, en fait, dans un premier temps. Et là, ce qui s'est passé après cette grande grève, c'est que, ne pouvant plus travailler, en fait, ne pouvant plus avoir de possibilité de subvenir aux besoins, c'était une espèce de mort sociale, économique. C'était plus la même persécution qu'il y a eu dans les premières années de la dictature. C'était plus la même phase, quoi. Donc voilà, il a réussi à trouver un peu de thunes et à partir. Et après, il nous a fait venir, nous, en France. Nous, on est arrivés en 82, en France, à la cité, directement.
Dalle tu mano all'indio? Sarà il mio. Dalle tu mano dei biglietti. Dalle tu mano all'indio. Sinon aussi une que j'ai réadaptée en partie pour mon prochain scud dans l'espagnol, c'est merde. Espagne, Angleterre, famille, Portugal. Il y a des salambras, non?
Ah oui, si c'est ça.
Es la libération là que se va cercando, je vois, tu pourrais un sujet à faire hein, sur la musique aussi, le rôle de la musique dans toute cette histoire.
Ouais, là,
parce que c'est primordial. Moi j'ai appris beaucoup de choses en écoutant de la musique que écoutaient mes parents. Bah, tout le folklore latino-américain révolutionnaire. Ouais. Nous on faisait écouter aussi des chansons du Front Sandiniste là, où ils expliquaient comment démonter des armes, faire une bombe, mais en chanson quoi.
No me pregunten quién soy. Ni si me habían conocido, los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy, ya no vivo.
Milonga del fusilado. Ouais, celle de Biglietti. Non, celle de Los Olimareños. Celle de Los Olimareños, c'est la plus belle pour moi. Bah, moi, j'ai tatoué les paroles de Milonga del fusilado sur mon corps, donc...
Todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara en el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente me oyó reír poca gente pero mi risa ignoraba la hallarán en la alborada del día que se presiente. Me pregunten la edad, tengo los años de todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van, en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Just arrived at Paris only in 4. Celsius and the temperature is 1 degree centigrade. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off and check that you have not left anything on board. We hope that you have a pleasant trip and that we shall have a pleasure of welcoming you again soon on board. Goodbye.
On rêvait encore de faire vraiment la révolution. Ou du coup, on se disait plutôt, bon ben voilà, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on fait des plans? Ils étaient arrivés à des niveaux d'organisation assez fous, quoi. Et notamment, ils allaient chercher de l'argent, ils allaient poser des paquets, ils faisaient des cocktails Molotov, évidemment, mais bon, ça c'était... Surtout, ils maniaient des armes, ils s'entraînaient tous les jours. Ils faisaient des journaux, ils étaient dans une urgence, dans un truc que... Moi, ça me plaît, ça me donne envie. Mais je ne suis pas sûr d'être d'accord. Notamment, il y avait eu une hiérarchisation des questions abordées qui mettait la question de la prise de pouvoir de l'État et du capitalisme au-dessus de tout. Et donc, éliminer toute une série de choses de transformation interne au mouvement social et à la société en termes de rapport de genre, de rapport de race, de rapport de classe, qui sont complètement occultés, quoi.
Celui qui était engagé politiquement dans les normes, on va dire, dans les canons un peu de la militance, c'était mon père. Ma mère, elle a toujours eu la place de la femme d'eux. La femme de Pepe Luna, la femme de du militant, quoi. Et du coup... Ça a un peu toujours été la chose compliquée. Ma mère s'est politisée différemment. Pas du tout avec les mêmes manières de se politiser que mon père, qui est devenu assez vite un cadre syndical, un cadre du parti et tout ça. Ma mère, elle s'est politisée, on va dire, de par son histoire, c'est-à-dire de ce qu'on a vécu, quoi. Et aussi, en arrivant en France et en voyant le mouvement des femmes, elle a très vite, s'est très vite intéressée au mouvement des femmes, à cette problématique-là. Les deux se sont ils vivaient la politique de manière différente. Mon père, c'était vraiment le dogme du parti, de la théorie, de la militance classique, d'ailleurs qui... J'espère que je ne suis pas injuste avec lui, mais à l'extérieur, enfin vraiment les caricatures quand on étudie un peu les genres et puis le rôle des hommes et des femmes, c'était vraiment la politique extérieure, grande gueule, prendre beaucoup de place, et puis la politique un peu, on s'arrête à la porte de la maison, quoi. Et puis ma mère, c'était plutôt une politisation dans le faire, énormément dans le faire, elle assumait beaucoup de choses dans le faire, et puis un truc qui venait plus des tripes, quoi.
Mon père, ça a toujours été un soldat, donc il n'a jamais été dirigeant ni truc, donc il n'a pas cette arrogance du dirigeant privilégié ou du cadre du parti qui est plein de bons discours, mais qui a une pratique merdique. Par contre, il avait des défauts, c'était un homme, donc du coup, il était aussi sexiste et il a subi, il reproduisait la domination masculine ou ce genre de choses, quoi. Donc ma mère, qui ne se définissait pas comme féministe, par exemple, mais elle dénonçait le sexisme ou le fait que les femmes étaient considérées comme inférieures dans l'organisation, etc., ce genre de choses. Et c'est vrai qu'après, moi, quand j'ai été sensibilisé aux luttes antisexistes ou contre l'homophobie et tout, il y a quelques années, j'ai pu m'appuyer après indirectement sur une mémoire de ma mère, quoi, par exemple, là-dessus, quoi. Mais je n'avais jamais défini ça avec des mots ou avec des clairement, quoi. C'est après, en faisant un petit tape de mémoire, je me souvenais que ma mère... Si, moi-même, je minimisais ma mère par rapport à mon père ou de ce genre de choses, quoi.
Ça me paraît à la fois très avancé parce que profondément révolutionnaire et en même temps, pas mal réactionnaire, quoi. Je sais pas s'ils avaient gagné, ils auraient fait mieux que l'URSS, quoi. Je veux dire, qu'un État, qu'un capitalisme d'État, quoi.
Je pense que l'histoire nous a montré que prendre des armes, c'était nécessaire et que le prix à payer est très cher. Et je pense que la vie qu'ils ont vécu mes parents leur a appris aussi ça, et que ils en payent les conséquences et ils vont continuer de le payer. Je pense que peut-être s'ils avaient à refaire ce choix, sans doute, sur le moment, je pense que, comme je te dis, c'était le choix à faire, et ça aurait pu passer. C'était à Cuba, ça a réussi à se faire. Au Guatemala, ça aurait pu se faire, mais il y a eu des erreurs de fait. C'est un choix qui peut être viable, disons, comme une guerre, hein. Comme les Kurdes maintenant. Moi, s'ils sont en guerre, je ne considère pas qu'il ne faille pas qu'ils le prennent, les armes. Ils sont déjà là. S'ils ont l'occasion de gagner, je leur souhaite. Les apatistes, ils sont passés par là. Moi, je respecte leur choix énormément. Moi, je ne ferai pas ce choix. Mais si quelqu'un fait ce choix, je suis de son côté. Je vais pas le balancer, je vais l'aider et je vais essayer de voir comment je peux faire en sorte qu'il gagne, si je peux.
Está mi tierra, y sin embargo, qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas. Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore. Que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.